Le prince Philippe, le WWF et la conspiration bénédictine. Karel Verheyken. Karel Verheyken. Mercredi 8 décembre 2010. Politique réchauffement climatique empire britannique impérialisme althusianisme. Sommaire. Le prince Philippe, fondateur du WWF et promoteur de la dépopulation. Le prince Philippe, fondateur du WWF et promoteur de la dépopulation. Vous avez du mal à faire passer les analyses ou les solutions programmatiques de solidarité et progrès auprès de vos proches, des membres de votre famille ou de vos collègues de travail. En tant que Français, convaincu que l'homme est avant tout un être pourvu d'une forte rationalité héritée de notre fameux Descartes national, et de son non moins fameux cogito ergo sum, vous soupirez, explorer Mars d'ici 50 ans, comme le propose Lyndon LaRouche, n'est pas moins fou que l'envoi de la mission Apollo vers la Lune en 1968. Et pourtant, moi, aujourd'hui, on me traite de dingo, alors que Kennedy, tout le monde l'admirait. Comment les gens ont-ils pu devenir aussi irrationnels? Au-delà d'une bêtise, et d'une ignorance bien réelle, nous avons du mal à reconnaître que ce qui conduit bon nombre de nos contemporains, et surtout nos jeunes, à s'écarter de la philosophie du progrès et de ses fruits n'est pas la bêtise ou l'ignorance, mais le puissant reflux d'une pseudo-spiritualité de nature féodale, se dissimulant sous un masque vert. Capri, c'est fini. Je m'explique en commençant par une petite anecdote. Il y a une vingtaine d'années, l'auteur de ces lignes a pu s'entretenir à Paris avec un responsable de l'église orthodoxe de l'île de Capri. Écartant d'un revers de main toute démarche politique comme vaine, ce vénérable père m'affirmait sans broncher que tous les problèmes que traverse notre époque trouvaient leur origine dans la Renaissance. Pourquoi ? La Renaissance, affirmait-il sans aucune hésitation, fut une erreur terrible, l'homme a cru pouvoir substituer la raison à la foi, c'est-à-dire substituer à la foi en Dieu une confiance démesurée en l'homme. D'où la dérive d'une société qui court aujourd'hui à sa perte en se livrant à tous les excès, spéculation financière, cupidité matérialiste, destruction de l'environnement, guerre, etc. Cependant, poursuivit-il, ce qui nous oblige d'être optimiste, disait-il avec un certain malice, c'est qu'un nouvel âge de ténèbres va mettre l'humanité devant l'évidence que la raison humaine est incapable d'organiser la société humaine, et l'homme sera automatiquement ramené vers Dieu. Il en découlait logiquement que, pour lui, empêcher ou retarder l'effondrement de la civilisation actuelle n'était pas seulement impossible, mais contraire à la volonté divine. Bon Dieu, toutes les spiritualités ne se vaudraient-elles pas ? En effet. Entre la conception prométhéenne et optimiste d'un homme doué de raison créé à l'image vivante du Créateur, défendu par Nicolas de Cusé, et l'obscurantisme pessimiste des moines misanthropes du désert, il y a un gouffre. D'un côté se trouve la figure fondatrice de la Renaissance du XVe siècle, pour qui l'homme est créateur à l'image du Créateur, chaque individu humain ayant droit à l'entière croissance créée, et de l'autre, ceux qui entendent parvenir à un salut privé sans les fruits du travail humain, en se mettant au vert. Pour les énormes cartels financiers mondiaux que nous appelons ici l'Empire britannique, l'homme n'est qu'un misérable animal, fatalement condamné à brûler les ressources fixes d'un univers fini qui s'épuise. Cet empire britannique, à l'instar des élites SS pour qui l'élimination de certaines races supposées inférieures fut un mal nécessaire qu'il fallait organiser dans de bonnes conditions, impose aujourd'hui des politiques, économiques et écologiques, visant à réduire la population mondiale de 6,7 milliards d'individus à seulement 2 milliards. Vaste programme. Comment y parvenir alors que l'immense majorité de la population mondiale aime la vie et les enfants, désire progresser, se nourrir, se vêtir et éduquer ses jeunes ? Puisque toute ingérence extérieure trop directe provoquerait immédiatement de fortes oppositions, mieux vaut convaincre les victimes, au nom d'une idéologie ou d'une croyance religieuse, de pratiquer la servitude volontaire. C'est ainsi que l'oligarchie financière, à une époque qu'elle considère comme la crise finale, compte imposer son joug. Le prince Philippe d'Édimbourg. Examinons ici l'offensive globale menée de longue date par le mari de la reine Élisabeth II d'Angleterre, le prince Philippe d'Édimbourg. Sous prétexte de protéger l'environnement, il fonda en 1961, de concert avec un ancien SS, le prince Bernard des Pays-Bas, le WWF, Fonds mondial pour la nature, afin de réduire la population mondiale. Sur la démographie, le prince Philippe se plaignait encore récemment qu'il y a 60 ans, la population était d'à peine 2 milliards alors qu'aujourd'hui elle dépasse les 6 milliards. Cet énorme accroissement, une véritable explosion, a probablement fait plus de mal à l'environnement que tout le reste. Le prince Philippe déclara même en août 1988, selon l'agence de presse Deutsche Presseagentur, DPA. Si j'étais réincarné, j'aimerais l'être sous la forme d'un virus mortel afin de contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. Dans un autre entretien, il se défend. Quand on évoque la démographie, les gens pensent que vous cherchez à la contrôler. Je ne veux pas la contrôler, je veux que les gens la contrôlent eux-mêmes pour leurs propres bonnes raisons. Ces raisons peuvent leur venir de leur religion, de leur compréhension scientifique ou simplement de leur bonne intelligence. Mais on ne va pas survivre sur cette planète limitée si la population continue à croître, il ne va rien rester. Le prince Charles. Quand on constate la proximité avec Al Gore et Tony Blair du fils du prince Philippe, le prince Charles, converti par James Lovelock, photo ci-dessus, à l'adoration de Gaia, déesse païenne de la mère Terre, l'on comprend aisément ce qui se trame derrière la propagande mondiale pour la lutte contre le réchauffement climatique. Notez que Al Gore et le prince Charles ont eu un mentor commun, le magnat américain Armand Hammer, à gauche sur la photo ci-dessous, fondateur d'Occidental Petroleum. Si Hammer a introduit Gore père auprès des élites américaines, il fut également choisi par le prince Charles comme le parrain de son fils, le prince William. Souvent présenté comme exerçant peu d'influence, le prince Charles opère en coulisses. En avril 1991, un an avant le sommet de la Terre de Rio, Charles organisa au large des côtes du Brésil une rencontre discrète à bord du yacht Royal Britannia avec les grands patrons de British Petroleum et Royal Dutch Shell et les responsables des grandes ONG, de l'ONU et de la Banque mondiale pour s'assurer du succès du sommet. En juillet 2010, dans un entretien avec The Ecologist, la revue fondée par le milliardaire réactionnaire Edward Goldsmith, l'ancien ministre britannique de l'environnement de Tony Blair, Michael Metzger, autre adepte de Gaia, ne donnait plus que 200 à 300 ans à vivre à l'espèce humaine, qu'il compare à un virus infectant un corps sain, la mère Terre. La Terre fera tout ce qu'elle pourra pour survivre avec nous, les humains, comme le virus qui la menace de destruction. Le changement climatique est une façon pour elle de réagir. Contraire à la Genèse. L'éthique judéo-chrétienne, mais aussi bon nombre de religions humanistes, rejettent ce malthusianisme délirant. Rappelons ici ce qu'on peut lire au premier livre de la Genèse, 1h26, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et il leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Si contre une photo de la création d'Adam, portail nord de la cathédrale de Chartres, début du XIIIe siècle. Pour renverser cette conception fondamentale, le prince Philippe a lancé une vaste offensive de récupération écologique auprès des responsables religieux. Il explique. Bien que dans les années 1980, le WWF collectait pas mal d'argent et commençait à lancer ses projets, j'estimais qu'avec les types de campagnes de sensibilisation qu'on menait, conférences, articles, livres, films, etc., on ne touchait que les gens éduqués des classes moyennes, Or, les gens qu'on devait atteindre étaient ceux vivant dans les zones à grand risque, et les régions où le potentiel pour la diversité biologique était le plus grand. J'ai constaté que les gens les plus aptes à communiquer avec eux étaient leurs dirigeants religieux. Plus que quiconque, ils étaient en contact avec la population locale. Ainsi, si l'on pouvait amener ces dirigeants à s'engager sur la question de l'environnement, ils pourraient ensuite motiver leur corps religionnaire. 1986, la rencontre d'Assise. Avec cet objectif, le prince Philippe organisa en 1986 la rencontre interreligieuse d'Assise, cherchant à embarquer les religions dans sa croisade malthusienne et réduisant saint François d'Assise au simple symbole d'un saint écolo parlant aux animaux. Le prince Philippe raconte comment il orienta les débats sans paraître directif. Les cinq dirigeants religieux, représentant le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, l'islam et le judaïsme, s'accordaient pour dire qu'ils avaient une responsabilité et on leur demanda de décrire de quelle façon leur religion voyait l'environnement. On disait, nous ne voulons pas être œcuméniques, on ne veut pas de texte final adopté par tous. À la place de cela, nous aimerions que chacun dise ce qui importe pour lui, et sa tradition. Continuant sur cette lancée, Philippe fonda en 1995, l'Alliance pour la religion et la conservation, protection de la nature, ARC, au château des Windsor, en Angleterre, photo. Son secrétaire général est le sinologue anglican Martin Palmer. Pour démontrer comment cette stratégie permet de bloquer les grands projets de développement, citons simplement la campagne Terre Sacrée lancée par l'ARC et le WWF avec l'aide de l'archevêque de Canterbury, numéro 2 de l'église anglicane après la reine. Ce projet vise, en Angleterre comme ailleurs dans le monde, à faire reconnaître certains sites naturels, forêts, lacs, rivières, marais, déserts, etc., comme des lieux sacrés afin de les mettre d'office à l'abri de tout aménagement opéré par l'homme. Des livres tels que Sacred Brit, 1997, pour les États-Unis, et Beyond Belief, 2005, pour le reste du monde, en fournissent de longues listes et descriptions. Katmandou 2003 IG. En novembre 2000, à Katmandou, au Népal, des dizaines de représentants spirituels de différentes religions et croyances remettaient 26 cadeaux sacrés pour une planète vivante au cours d'une cérémonie organisée par le WWF et l'ARC en présence du prince Philippe, chacun exhibant son engagement pour l'environnement. Parmi ces engagements que cite le WWF France, on trouve aussi bien l'engagement honorable des bouddhistes de Mongolie de rétablir l'interdiction totale de la chasse sur leur site sacré, en vue de sauver le léopard des neiges, que l'engagement financier de l'église méthodiste américaine de transférer la totalité de ses fonds de trésorerie dans un fonds d'investissement éthique vert. C'est d'ailleurs lors de cette cérémonie à Katmandou que naît l'idée de créer l'International Interfaith Investment Group, 3IG, officiellement mis sur pied lors d'une conférence en avril 2005 à Londres réunissant des responsables des rites bouddhistes, chrétiens, taoïstes, juifs, musulmans et sikhs. Si, officiellement, il s'agit de permettre aux religieux de placer leurs fonds et leur patrimoine dans des investissements socialement responsables, et donc en accord avec leur religion, c'est en réalité un instrument de contrôle qui s'est ainsi mis en place. Selon le site de l'ARC, les grandes religions contrôlent 60% de toute l'aide médicale en Afrique et 40% des écoles, elles gèrent 70% des sites touristiques de la planète, possèdent 7% des terres habitables, et d'innombrables associations. Tout cela est largement financé avec les bénéfices tirés de leurs actions en bourse, de leur participation et de leur parc immobilier. Rendement financier, écologisme et contrôle social forment ainsi les trois piliers d'un ordre politico-religieux. Parmi les membres fondateurs du 3IG, notons le diocèse suédois de Västerås qui possède d'immenses forêts dans ce pays, le Conseil mondial des églises, et l'église méthodiste américaine, dont la trésorerie dépasse les 40 milliards de dollars. Parmi les conseillers séculiers du groupe, notons la banque américaine Citigroup, la banque néerlandaise Rabobank, la banque mondiale, ainsi que Innovest et le WWF International. Du point de vue européen, notons le soutien des bénédictins sous la forme de l'Alliance Intermonastère, AIM, sur laquelle nous reviendrons. Travaux pratiques, décembre 2009, le sommet de Copenhague. En novembre 2009, c'est-à-dire un mois avant le sommet de Copenhague, le prince Philippe et l'ARC, dans un partenariat officiel avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, organisa un séminaire de trois jours, la célébration de l'environnement et des religions, au château royal de Windsor, dans une tentative ultime de convaincre les pays du Sud de renoncer à leur droit au développement industriel. Le vice-directeur général de l'ONU, Olav Kerv, qualifiait cette rencontre, qui finissait évidemment avec un banquet végétarien, comme le plus grand mouvement de la société civile de l'histoire sur le changement climatique, et la plus grande mobilisation jamais fut de peuples et de communautés sur cette question. Heureusement, les pays du Sud refusèrent courageusement les dictats du sommet de Copenhague, comprenant que toute cette agitation avait pour but d'empêcher leur développement en les plaçant sous tutelle. En France. Le WWF France a évidemment voulu répliquer ce processus. Après une première rencontre, en octobre 2001, au monastère orthodoxe de Solans, lié au Mont Athos, dans le Gard, le WWF France organisa en avril 2003 les rencontres écologie et spiritualité, qui se déroulèrent sur le site prestigieux du Mont Saint-Michel. Daniel Richard, président du WWF France à l'époque, souligna dans l'introduction du programme de cette rencontre, que le WWF considère, que les traditions spirituelles sont des alliés, et qu'elles doivent participer à la prise de conscience générale face à l'accélération des problèmes écologiques. Ensemble, il s'agit de réenchanter le monde. C'est l'écologiste personnaliste Jean-Marie Paelt, fondateur de l'Institut européen d'écologie à Metz, qui ouvrit la rencontre, et l'anima. Suivi alors un exposé du père belge Martinet, photo ci-contre, moine bénédictin au monastère Saint-André de Clerland, en Belgique, enseignant les arts africains à l'Université catholique de Louvain et, surtout, à la tête de l'Alliance Intermonastère, AIM. Sachez qu'en principe l'Ordre des Bénédictins est une confédération sans direction centrale, et que l'AIM ne fait qu'assurer la promotion des relations entre les monastères bénédictins à travers le monde. Participant pleinement au lavage de cerveau du WWF, l'AIM a envoyé en 2002 un questionnaire environnemental auprès de 140 communautés du réseau français monastique. Ce questionnaire, élaboré en collaboration avec le WWF France, visait à recenser les actions en faveur de l'environnement menées par les monastères, telles que la préservation des espaces naturels, l'agriculture biologique, la réduction des consommations d'eau ou d'énergie, l'utilisation d'énergies renouvelables, le recyclage, ou les actions d'éducation ou de sensibilisation à l'environnement. Pour rester poli, disons simplement ici que certains bénédictins n'ont pas attendu l'arrivée du prince Philippe pour combattre la conception prométhéenne et optimiste d'un homme capable de créer à l'image du Créateur, image qu'ils considèrent comme le summum de l'orgueil. Ce sont eux qui s'opposèrent à la Renaissance carolingienne. Denis de Rougemont. Cette vision d'une spiritualité féodale concorde largement avec les thèses du personnaliste réactionnaire suisse Denis de Rougemont. Ce dernier, président du Congrès pour la liberté de la culture, CLC, faisant abstraction des régimes et des politiques, s'acharne avec virulence contre l'État-nation qu'il accuse d'être à l'origine de toutes les aliénations humaines. Dans L'avenir est notre affaire, page 90, il écrit « Les États-nations ont géré et détruit ces ressources de la Terre, en vue de leur seule puissance et de leur seul prestige, en vue de la guerre, dont tout son est. » Dans Écrit sur l'Europe, page 231, de Rougemont souligne que le fédéralisme est dans la ligne de la pensée chrétienne, alors que le nationalisme est foncièrement païen, idolâtre et anti-chrétien. L'idée même de nation est étrangère au dogme, et à la fois chrétienne. Pour sauver l'humanité, il faut éradiquer les États-nations en s'appuyant sur la notion de personne, contraire à l'idée d'individu et de citoyen. La personne, dit-il, s'inscrit dans un réseau de relations puisque l'homme abstrait n'existe pas. Et ce réseau de relations est la société. Procédant comme Aristote dans le Politique, Denis de Rougemont part du couple. Du couple, de la famille, on passe aux petites communautés auxquelles on adhère aujourd'hui librement, puis aux régions qui se fédèrent entre elles pour former un empire. Denis de Rougemont envisage ainsi la division de la France en une douzaine de régions linguistiques, Alsace, Bretagne, Pays Basque, Corse. Leur allégeance à l'Empire leur garantissant les libertés, coutumes locales.